Bonsoir, il est 22h02, c'est l'heure de la causerie. En compagnie du jardin d'été, on vous retrouve après ce morceau.
Bonsoir, vous êtes bien à la causerie sur Radio Canu, il est 22h et quelques petites brouettes. Et ce soir, on va déjà vous rappeler les principales informations pour nous contacter. On a un blog à
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Mais on a aussi un mail.
lacauseriecanu@gmail.com.
Et on a aussi une page Facebook, vous nous trouverez à La Causerie, pas le resto, l'émission de radio. Et ce soir, autour de la table, on a Fab.
Salut.
On a Clara, la technique.
Bonsoir.
Et ce soir, on reçoit l'association Le Jardin d'été, et on est en compagnie de Florence.
Bonsoir.
Et Emma qui a fait quand même l'ouverture, on va le dire.
Bonsoir.
Et bien c'est parti.
Et bien c'est parti, oui.
Et là on se regarde tous, bon qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Non, ce soir Florence est là pour nous présenter effectivement l'association dont elle est présidente, le Jardin d'été, mais aussi pour parler avec nous durant une heure de transidentité, redéfinir quelques mots avec nous et répondre à toutes les questions qu'on peut se poser, que les personnes peuvent se poser, voilà.
D'accord, donc je redirai bonsoir.
Mais tu peux redire bonsoir.
Bon, la petite dame dans le bocal, elle me fait très peur.
Pourquoi? Elle est gentille.
C'était surtout quand elle essayait les casques, elle avait l'air perdue.
Non,
d'accord.
Totale maîtrise de ce côté-là. Bon,
c'est parfait. Alors la transidentité, on va parler plutôt de la transidentité dans une première partie. Transidentité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait toutes les personnes qui ont... un problème d'identité de genre et un problème d'identité sexuelle, c'est des personnes qui ont l'impression, le sentiment, le ressenti de ne pas être dans le bon corps. Vous avez des garçons qui ont le ressenti d'être une fille, et pourtant ils sont physiquement assignés garçons. Et vous avez des garçons qui se sentent garçons et qui pourtant sont nés dans un corps de femme ou de fille. Et ça, c'est sujet à énormément de souffrance, énormément de questionnements. C'est peut-être ce qu'on va voir dans la première partie.
Eh bien, allons-y alors.
Oui.
Parce que tu lances comme ça des pavés dans la mare en disant oui, la transidentité. Mais du coup, tu parlais du chemin que ça représente. Donc, quand est-ce qu'on commence à se dire je ne suis pas dans le bon corps, du coup? Quels sont les premiers signes, on va dire?
Ça, c'est extrêmement variable.
Ouais.
Je pense que... Alors, personnellement, pour moi, à l'âge de 5 ans, je me suis dit, je suis mal barré, parce que je suis mal foutu, parce que c'est pas du tout comme ça que je dois être. Pour la majorité des personnes, c'est une... on va dire, c'est à peu près la même période. C'est entre 5, 6, 7 ans qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans le bon corps. Mais on ne sait pas forcément l'analyser. Et je dirais les vieilles comme moi, entre guillemets, où on n'a pas eu beaucoup de médias, on n'avait pas Internet, on n'avait pas toutes ces choses-là, donc on se posait la question, et moi je me suis posé la question jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, je rencontre énormément de jeunes qui, eux, savent très tôt. Ok, moi je suis un garçon, et pourtant je suis une fille, ou je suis fille, et pourtant je suis né garçon. Donc, quelque part, c'est déjà beaucoup plus facile de les aider, de les accompagner. Après, il y a deux choses. Donc, on va parler des personnes qui ont découvert leur transidentité, ou plus exactement, accepté leur transidentité tard, comme moi, à 43 ans, ou après avoir mis un couteau dans le ventre, j'ai dit j'arrête mes conneries et je vais y aller. Voilà. Vous avez donc d'un côté ces personnes, et puis de l'autre côté les personnes, les jeunes, qui eux, avec les médias, l'Internet, le Facebook, tous ces réseaux, qui découvrent très vite qu'ils sont en fait transidentitaires. C'est une différence qu'il faut mettre, je dirais, au même rang que en fait, les grands par rapport aux petits, ou les petits par rapport aux grands, ou les personnes qui sont rousses, ou les personnes qui ont les yeux bleus, ou les personnes qui sont gauchers. C'est des différences de la nature. Bien que nous, on considère que, par contre, la nature a fait une erreur. Elle nous a mis dans un corps d'homme, alors qu'en fait, on est fille. Ou inversement. Et beaucoup de personnes, là je parle des personnes qui se révèlent tardivement, passe par, bon, alors je ne vais pas revenir sur le côté souffrance, sur le côté tout ça, mais on a la première personne transphobe que l'on rencontre, c'est nous-mêmes. On se fait tellement de mal, et ça c'est abominable, on se scarifie, on se mutile, et on va jusqu'au suicide, effectivement. 75% de la population transidentitaire dans la tranche d'âge 45-50 ans, a au moins fait une tentative de suicide. Voilà. Donc, ce qui est quand même très très important.
Ben, c'est important, mais surtout important de le dire, parce que souvent, dans les médias, on parle un peu du côté, je dirais, je cherche un mot pas trop violent, mais le premier qui vient, c'est un peu chaud qu'on cherche à faire, mais on ne parle pas de la souffrance qui est réellement... qui est derrière et du parcours. Alors, en lui-même, quoi.
Ouais, dans les médias, c'est soit on prend les transidentitaires comme les grandes folles qui travaillent au Bois de Boulogne, ça c'est la première chose, ou on cherche à faire du business spectacle, et
ouais, c'est
donc c'est encore autre chose. La plus grande difficulté, la plus grande partie, je veux dire pour nous, association, la plus grande partie importante, c'est ce côté souffrance, ce côté où l'on va se rechercher, où on va essayer de se découvrir et de comprendre ce qui se passe en nous. J'ai mis, moi, plus de 40 ans à comprendre ce qui se passait en moi, pourquoi j'étais pas bien à ma peau, pourquoi j'aimais m'habiller en fille, pourquoi j'aimais me travestir. Mmh. Voilà. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on ne sait pas pourquoi on a envie de les faire. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand on s'habille dans notre genre de destination?
Et, mais voilà, ça répondra à une question, ça, parce qu'on a reçu une question pour l'émission par rapport au fait que dans l'intitulé du jardin d'été, il y a les personnes travesties. Et que les gens se demandaient pourquoi il y avait. Bah voilà, vous avez la réponse maintenant.
Non, je peux peut-être aussi.
Tu peux aussi éclaircir si tu veux.
Éclaircir, oui. C'est une bonne question, parce qu'en fait, je ne connais pas de transidentitaire qui n'ait pas commencé à trouver de réponse sans se travestir. Tous les transidentitaires se sont travestis à un moment donné. On a essayé la jupe de maman, les collants de sa grande sœur, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quand on est jeune, c'est normal qu'un garçon prenne les chaussures de sa maman, c'est tout à fait normal. Mais quand ça se fait une fois, deux fois, trois fois, bon, ça c'est rigolo, ça amuse tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient pérenne, et régulier, et récurrent, et qu'en fait on s'aperçoit que l'enfant a besoin de ça, pour être heureux, je dirais être heureuse, eh bien c'est là où il y a un problème d'identité de genre et un problème d'identité sexuelle.
Et quand même, pour tu parlais des souffrances, il y a quand même un chiffre que tu nous as donné, je pense qu'il est important à connaître, c'est la différence entre le taux de suicide chez les personnes transidentitaires par rapport au reste de la population qui est beaucoup plus élevé.
Alors, ça c'est le sujet, justement, c'est la campagne de notre association cette année, c'est de lutter contre le suicide. Quelques chiffres, en France, en 2015, il y a eu 10 500 suicides ratés. Ce que j'appelle raté, c'est qu'en fait, ça s'est terminé par une mort. Sur les suicides, les tentatives de suicide, il y en a eu entre 250 000 et 300 000. Tentative de suicide en France. Là, les chiffres sont tout confondus, attention. Mmh. Hein.
Ah oui.
Tout confondu. Ça coûte à peu près à l'État 5 milliards d'euros, pardon. Ce qui est énorme. Alors, la part de la population transidentitaire dans ces chiffres-là, eh bien, c'est simple. Nous représentons 38 fois le taux national du taux de suicide. Voilà. Donc, en gros, si on reprend les études qui sont faites au Canada, entre autres, on s'aperçoit qu'il y a, je crois que c'est 85% d'enfants qui ont pensé à se suicider. 70% pardon, vont passer à des actes de tentatives de suicide et de choses comme ça. Et 38% vont aller jusqu'à l'acte de tentatives de suicide et d'essayer de se donner la mort. Heureusement, tout le monde n'y arrive pas. Voilà.
Bah, c'est peut-être l'occasion, on en reparlera plus tard, mais de donner le numéro, numéro vert qui a été en place.
C'est la campagne de cette année pour nous, parce que je pense que c'est extrêmement important. On a atteint des chiffres en termes de suicide qui sont beaucoup trop importants sans qu'on puisse vraiment faire attention à ça. Donc, nous, on a mis en place une ligne dont les appels sont gratuits. C'est le 0800 600 608. Donc ça, c'est une ligne qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous pouvez décrocher, c'est une personne transidentitaire qui vous répondra.
Donc 0800 600 608.
Je le connais par cœur.
Bon, on va peut-être passer un peu de musique. Ouais.
Walking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? If you're free, down, but
et vous êtes toujours à la causerie et on vient d'écouter Conchita Wurst avec Rise Like a Phoenix. Et la première chanson que Florence avait choisie, c'était Indochine avec Playboy.
Et on continue. Donc tu voulais revenir, pour qu'on attaque la deuxième partie, revenir un tout petit peu en arrière.
Je voulais revenir un tout petit peu en arrière parce que bon, effectivement, on a parlé beaucoup de la souffrance de ces personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces personnes sont en souffrance, mais ne savent pas du tout pourquoi elles sont en souffrance. Il y a quelque chose qui cloche, mais elles n'ont pas encore compris ce qui se passe. Et le moment ou le jour où elles le découvrent, mais elles le découvrent suite à une émission, par exemple, suite à un reportage télévisé, suite à un film comme dernièrement The Danish
Girl.
Merci. Voilà. C'est des personnes qui, en regardant ce film, se disent « Ah, mais c'est ça que j'ai. Je suis ça. » Et le « ça » va prendre toute une ampleur dans sa vie. Je dirais, un plombier est plombier de 8h du matin, allez, on va dire à 18h, 19h, pour ceux qui travaillent beaucoup. Bon. Mais, transidentitaire, on est 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24, on se pose des questions. On doute, on se questionne. On regarde autour de nous. On regarde, on fait attention au regard qui naît autour de nous, de façon à ce que, un jour, à un moment donné, on se retrouve dans le regard de quelqu'un. Et c'est là où on va se dire, bon sang, oui, je suis transidentitaire et je n'en ai pas le choix. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une envie, ce n'est pas non plus un truc qu'on chope en sortie de boîte comme un courant d'air. C'est comme ça, c'est prénatal, c'est avant la naissance, on était déjà transidentitaire. On le découvre après, on y met des mots plus tard, et on le vit et on le découvre beaucoup plus tard.
Bon. Emma, ce soir, ne veut pas reprendre la parole. Justement, tu parlais de mettre des mots.
Oui.
Et justement, c'est un vocabulaire souvent qui n'est pas maîtrisé ou qui n'est pas connu plutôt. Et bah, par exemple, moi, truc tout bête, hein, mais quand on dit M2F, F2M, des choses comme ça, il y a des gens, ils se disent, mais
c'est
un code.
Voilà. Alors, M2F, bon, tout ça, ça, c'est des trucs américains ou anglais, je ne sais plus. M2F, c'est mâle to femelle, ou femelle to mâle. C'est-à-dire, le garçon qui veut devenir, ou qui va en direction d'une fille, et la fille qui va sur la direction garçon. Alors, c'est vrai qu'il faut, aussi un petit peu simplifier tout ce jargon, parce que je trouve que les gens de l'extérieur, déjà, ne connaissent pas du tout la transidentité. Donc, si on leur parle de CEC, de THS, de M2F, de F2M, les gens, ils vont se dire, il faut sortir de Saint-Cyr pour comprendre ces martiens, donc on abandonne d'office. Voilà. Donc, non, il faut simplifier les choses considérablement. Moi, je suis né, malheureusement, garçon, et je me destine à être une fille d'origine trans, parce que je ne serai jamais une fille à 100%, hein, je n'ai pas d'ovaire, je n'aurai jamais d'ovaire, je n'aurai jamais d'enfant, malheureusement. Mais voilà. Et je suis fier aujourd'hui de ce que je suis.
Donc, le mot principal pour toi, c'est transidentitaire ou trans, tout simplement?
Le mot transidentitaire, comme le mot trans, qui s'écrit trans, T-R-A-N, apostrophe S, Et ce sont deux mots généralistes. Donc transidentitaire et trans avec l'apostrophe, on englobe la transidentité, les transgenres, les travestis. Et bien évidemment les transidentitaires, les transsexuels, pardon, excusez-moi. Transsexuel, c'est un mot que j'évite d'utiliser, même quand je fais des conférences, pour la simple et même raison, c'est que la transidentité est... Les gens se représentent comme un trans, se représentent comme quelqu'un qui travaille au bois de Boulogne. Mmh. C'est un côté sexuel. Or, en fait, compte, bah, pas du tout. Les personnes qui travaillent sur les TDS, ce qu'on appelle les TDS, les travailleurs du sexe, représentent que 3% chez nous. Donc c'est relativement faible. Et c'est dommage de donner une image à notre catégorie de personnes comme trans, comme étant travailleuse du sexe, alors que le pourcentage est relativement faible. Donc c'est pour ça que j'évite de parler de transsexuel. Transsexuel, transidentité ou transidentitaire, c'est exactement la même chose. Ça veut dire la même chose. Ouais. Transgenre, par contre, ce sont des gens qui ont envie d'avoir eh ben, le genre de destination, contrairement à leur assignation de départ. Ils sont assignés, c'est-à-dire ils sont nés garçons, par exemple, et ils veulent devenir filles ou féminines. Et les transgenres vont tout faire pour se féminiser, voire même avoir des opérations, mais n'iront pas jusqu'à l'opération finale, enfin finale, la vaginaux ou le phalo. Voilà. Donc ça, c'est les différences un peu au niveau des mots. Mais je pense que pour englober tout ça, on peut dire tout simplement trans. Et ça va très très bien.
Je vais juste préciser vaginoplastie et phalloplastie. Non, mais pour que les auditrices et les auditeurs comprennent de quoi on se parle autour de la table.
Alors, une vagino, eh bien, c'est tout simplement un garçon qui a envie de devenir une fille. Et tous ces attributs, on va dire entre guillemets, tous ces attributs qui sont à l'extérieur, on va intérioriser tout ce bazar. Et par les mains d'un magicien qui s'appelle chirurgien urologue, il va fabriquer en fait un sexe de femme. Et inversement, pour les garçons, en ce qui concerne la phallo ou la métasse, qui sont des opérations un petit peu plus compliquées par contre là, mais c'est en gros le principe est le même, quoi. Voilà.
Bah justement, je pense que on peut peut-être parler du protocole pour ceux et celles qui, justement, veulent aller jusqu'aux opérations ou pas, d'ailleurs.
Alors là, justement, on a parlé donc des gens qui, effectivement, souffraient énormément, qui se rendaient compte qu'en fin de compte, bah, ils étaient transidentitaires et que pour vivre comme il faut et continuer à vivre en espérant d'avoir un tantiner un petit peu de bonheur, il fallait entamer ce qu'on appelle un parcours, une transition. Aujourd'hui en France, nous avons la chance et l'opportunité de faire ça, à ma connaissance, de deux façons. Soit on le fait en individuel, libre, c'est-à-dire on va voir son médecin traitant et on lui dit « Docteur, j'ai un problème d'identité et je veux devenir un garçon ou je veux devenir une fille ». Ce même médecin est censé proposer une ALD, une affection longue durée, un traitement d'affection à longue durée qui va permettre, au niveau de la CPM et de la Sécurité sociale, d'avoir un certain nombre de traitements et d'auscultations prises en charge. Après, on va aller voir donc un psychiatre qui va nous faire un petit suivi de, on va dire, 2-3 rendez-vous, dans le meilleur des cas. Et ce psychiatre va après se faire un certificat qui va permettre d'aller voir un endocrinologue indépendant, qui, cet endocrinologue, va essayer de remettre, en fait, tout ce qui a été l'erreur de la nature dans le bon chemin. Et on va toucher, donc on va commencer à toucher à la plateforme hormonale. Ça, c'est la première technique, en fait, c'est une des façons dont on a la possibilité en France. Et autrement, l'autre façon, c'est que nous avons, en France et à Lyon, on a l'avantage, entre autres, d'avoir une équipe qui s'appelle le Grétis, qui fait partie d'une structure nationale qui s'appelle la SOFECT. Donc la SOFECT, je suis personnellement contre la SOFECT. Par contre, je suis à 2000% pour le Grétis, parce que c'est une ouverture, ils ont fait une ouverture d'esprit extraordinaire au niveau psychiatrique et psychologique. Je fais juste une petite parenthèse, c'est que la transidentité, et bon, comme l'homosexualité, ne sont pas des maladies et ne se soignent pas. On est bien d'accord. Et c'est pas contagieux, puisque depuis le temps que je rencontre du monde, il y en aurait beaucoup plus. Voilà. Et voilà, ça mis à part. Donc, le Grétis fait quoi? En fait, le Grétis, c'est tout simplement votre médecin traitant qui veut dire bah, allez voir le Grétis, puisqu'ils sont spécialisés sur la transidentité. Là-bas, donc à Lyon Sud, on est reçu par un psychiatre qui nous accueille et qui est, en fait, ni plus ni moins à la porte du Grétis. Et après, on a un parcours à faire avec des psychiatres, des psychologues. On voit aussi des chirurgiens, et en fait, on fait le même parcours qu'indépendant, qu'en libre, mais simplement, là, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire ça, et qui le font très très bien.
Ils sont chercheurs sur le genre, en
ce
fait.
Ce sont chercheurs, ça s'appelle le Grétis. Grétis, c'est le groupe de recherche... Des troubles, non, c'est pas
d'études
ça.
D'études sur les troubles identitaires.
Bien sûr, ben voilà, c'est parfait. Vous le savez encore mieux que moi, voilà, très bien.
Et surtout qu'on avait pris des notes.
Exactement.
Bon, d'accord.
Parce
voilà.
Qu'on a préparé des missions. Hein, voilà. Et du coup, tu parlais donc du parcours, alors qu'il soit officiel, entre guillemets, ou libre, je ne sais pas comment on peut donner.
Oui, c'est ça, voilà, non, c'est ça.
Les deux appellations.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça procure à une personne lorsqu'elle arrive à commencer ce parcours-là?
Que des emmerdes. Non, je plaisante. Alors, personnellement, pour ma part, quand je suis rentré au Grétis, parce que je ne connaissais pas du tout ce que... je rappelle, ça fait suite à un suicide, enfin une tentative de suicide importante, et j'ai été pris en charge immédiatement par les services sociaux de la ville de Lyon, à savoir un psychiatre qui a été commis d'office, qui est venu dans ma chambre, en fait, de l'hôpital, et en me disant qu'est-ce qui vous est arrivé. Et j'avoue que j'avais plus du tout la force psychique, j'avais plus d'énergie en moi pour lutter contre moi. Et là, je lui ai dit, j'ai un problème d'identité, de genre et de sexe. Là, le psychiatre, il s'attendait certainement à tout, mais sauf à ça. Hein. Il m'a dit, bon, je comprends rien, vous sortez ce soir. Voilà. Après, je suis allé voir mon médecin traitant. 15 jours après, je suis allé voir mon médecin traitant et je lui ai expliqué exactement la même chose. Je lui ai dit, écoutez, docteur, c'est tout. J'arrête de me battre contre moi-même. J'ai un problème d'identité sexuelle. Et voilà. Et il m'a dit, et c'est là qu'il m'a... fait la connaissance en fait du Grétis. Alors comment ça se passe concrètement? Bon, il y a effectivement le choix de se dire, bon, ok, je vais faire un parcours. Je vais faire un parcours en indépendant parce que je veux être libre, parce que j'ai pas envie d'être encadré, parce que je veux choisir mes médecins, parce que je veux choisir mon traitement. Et ça, c'est très très bien pour ceux qui... je dirais qui ont le temps ou qui ont intellectuellement la capacité et de gérer ça. Moi, quand ça s'est arrivé, quand c'est arrivé pour moi, j'avais plus du tout aucune capacité et aucune force, et donc je me suis laissé engouffrer dans le Grétis, et je me suis rendu compte qu'après, j'avais bien fait pour moi personnellement, j'avais bien fait. Que ça soit bien qu'on comprenne bien que le parcours se fasse en indépendant, en libre ou avec le Grétis, il n'y a absolument aucune importance. L'essentiel, c'est, je pense que l'essentiel, c'est de le faire, ce parcours. Et de ne surtout pas attendre, comme moi, que l'élastique casse. Voilà. Après, quand on décide de faire un parcours, s'il faut aussi savoir, c'est qu'on décide quelque part de prendre le risque de perdre sa famille, de perdre ses amis, de perdre son emploi, de perdre sa vie sociale. En fait, en gros, on prend le risque de tout perdre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens hésitent à se lancer dans un parcours en se disant, non, je n'aurai pas la force de perdre mes parents, je n'aurai pas la force de me trouver devant un refus, je n'aurai pas la force, tout ça. Alors, bien sûr, il y a des gens qui hésitent beaucoup, Mais plus on va hésiter à ce moment-là, dans cette partie, quand on en est là, plus on va hésiter, plus en fait on va tendre un espèce d'élastique. Et comme tout le monde sait, un élastique, c'est une certaine dynamique, mais à un moment donné, pouf, ça casse. Et quand ça casse, eh bien, ça fait un raz-de-marée. Donc, je conseillerais à tout le monde d'éviter ce raz-de-marée. Voilà. Et de commencer une transition tout doucement, en parlant avec sa famille, avec son frère en premier, ou avec sa sœur en premier, ou avec son meilleur ami, ou sa meilleure amie, et ainsi de suite, et se forger à ce qu'on appelle le coming out, c'est-à-dire l'ouverture, la sortie de placard. Voilà. Et puis, petit à petit, eh bien, se lancer dans cette aventure qui, moi, maintenant, avec du recul, je trouve que c'est une aventure extraordinaire et tellement enrichissante au niveau humain. C'est extraordinaire.
Je vais dévoiler quelque chose que tu nous as dit pendant la prépa. Non, n'aie pas peur. Tu lui disais que tu n'aurais jamais pu, avant d'avoir démarré ton parcours, venir à la radio parler.
Oui.
Voilà. Et c'était une des choses qui t'ont... Enfin, ouais, qui ont changé chez toi, en fait. Enfin,
alors,
qui sont révélés chez toi, peut-être.
C'est une révélation. C'est une révélation. Il y a beaucoup de choses comme ça, en fait. Mais je me rends compte, auprès de moi, des gens que je rencontre tous les jours, on a l'avant-transition, le pendant et l'après, quoi. Mais le fait de faire une transition, le problème est très simple. C'est, vous prenez quelqu'un qui est très, très mal dans ses baskets. 10 minutes après, vous lui trouvez une paire de pompes qui est adapté à ses pieds, eh bien celle-ci va courir beaucoup plus vite et sauter beaucoup plus haut. Eh bien là, c'est, en gros, c'est exactement pareil. Avant ma transition, avant 2013, j'étais complètement insignifiante, je dirais insignifiant, pardon. Personne ne faisait attention à moi, et en fait, quelque part, je m'en foutais aussi. Je parlais très très peu, il suffisait qu'il y ait 3 personnes autour d'une table pour que je dise plus rien, et ainsi de suite. Et ça ne m'a pas empêché, au mois de juillet, de faire un discours devant 4000 personnes. Là, maintenant, depuis ma transition. Je fais des conférences en entreprise, je fais des interventions en milieu scolaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont des choses qui étaient enfouies en moi. Ce qu'il faut aussi, par exemple, que les parents ou amis ou collègues comprennent bien, c'est que la personne transidentitaire, c'est toujours la même personne. Si au départ on n'aime pas les endives, je vous garantis, j'aime toujours pas les endives. Voilà. Et on change pas. On met en avant des choses que nous avions plus ou moins enfouies, parce que justement, avant cette révélation où c'est qu'on acquiesce le fait d'être transidentitaire, eh bien, on avait enfoui en nous par peur d'être découvert. Et il y a aussi cette peur d'être découvert qui est terrible, mais ça, c'était la première partie. J'ai oublié de le dire trop tard. Tant pis pour moi.
C'est fait, on l'a plate. Voilà. Ben, on va faire une petite pause musicale et on revient ensuite pour parler de l'association et justement de tout ce que vous faites.
Avec plaisir.
Dans la
bon retour dans la causerie sur Radio Canu. Et il y a un truc qui fait du bruit bizarre, c'est pas grave. Donc voilà, c'était Indochine avec Troisième Sexe, comme beaucoup de gens l'ont connu. Et je vais juste profiter, avant de te redonner la parole, Florence, pour saluer les causeuses et causeurs qui ne sont pas là.
Bien sûr, Nadège, et qui sont tout nus chez eux.
Souvent tout nus chez eux. Donc Nadège, Jonathan et Jean-Yves, rhabillez-vous, il fait froid. Et donc Florence disait, dans cette chanson, il y a quelque chose d'intéressant dans les paroles.
Oui, justement, c'est le tout nu, mais j'ai pas envie de te voir toute nue. Tout simplement parce qu'en fait, souvent on fait la liaison transsexuelle, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, en fait, non, on s'en fout. Alors, effectivement, je ne veux pas dire qu'on passe à côté d'une vie sexuelle, bien évidemment, ça c'est clair, mais ce n'est pas la priorité de notre truc. Et juste une petite aparté qui est fondamentale quand même quand on parle de la transidentité, c'est entre la différence entre l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup sortir, il y en a des tas, mais celle-ci, entre autres, quand je fais des conférences, c'est l'orientation sexuelle, c'est la personne avec qui vous couchez ce soir, et l'orientation sexuelle, c'est la personne que vous êtes quand vous allez vous coucher. Voilà, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que je dis, tu disais, ouais, tout nu, si, mais je dis, non, on s'en fout, c'est pas là, plus important.
Voilà. Je crois que tu t'es trompé dans ta phrase.
Oui, c'est l'orientation.
Deux fois orientation sexuelle.
Oui. Attends, oui.
Ah oui, enfin bon, je pense que tout le monde avait compris.
Et justement, alors, l'association, parce qu'on va parler plus de l'association maintenant, dans cette troisième mais belle partie. Donc, Jardin d'été.
Oui.
Et ça naît quand?
Alors, le jardin d'été est né au mois de, on s'en fout, ça n'a pas d'importance, mais disons en 2014, déclaration préfecture, novembre 2014. Pourquoi ça s'appelle le jardin? Parce que j'aime beaucoup les plantes, et je trouve que le jardin, un jardin, c'est quelque chose de paisible, de calme, où on peut aller se promener et se poser plein de questions dans la tête. Et la nature, si on veut bien l'écouter, si on veut bien la laisser nous pénétrer, eh bien, elle va, pour beaucoup, nous donner une réponse. Donc, c'est pour ça que j'avais appelé le jardin. Le jardin d'été, donc, d'été, bien évidemment, il y a un petit jeu de mots, parce que ça s'écrit D-E-S, et un peu plus loin, T majuscule, qui englobe donc toute la transidentité, les trans et tout ça. Voilà. Donc, ça a été monté en 2014. Suite, en fait, tout simplement à mon parcours moi-même, où je me suis rendu compte que beaucoup galéraient. C'était un parcours du combattant pour trouver l'endocrinologue, pour trouver le psychiatre, pour trouver tout ça. Et je me suis dit, c'est une population qui est déjà très très fragilisée psychologiquement, de par son problème d'identité, justement, et il faut qu'on les accompagne. Donc, le jardin d'été, c'est on accueille, on soutient et on accompagne. Notre plus gros travail se passe sur le terrain, puisqu'on a une commission. La première commission, c'est la commission hébergement, où on héberge les gens qui viennent un petit peu de partout de France consulter à Lyon Sud. On les héberge 24 heures ou 48 heures. On les emmène à leur rendez-vous et puis on les raccompagne à la gare. Donc, en fait, pour ces personnes, c'est nos stress et nos dépenses. À part 20 euros qu'on demande comme participation, mais c'est tout. Voilà. Ça, c'est la première commission.
C'est la notion d'entraide communautaire dont tu parlais.
Absolument. Voilà, tout à fait. Là, c'est surtout de l'accompagnement. On accompagne les gens directement. Après, on a, dans la partie information et accompagnement, on a aussi une commission qui est très importante, qui est la commission, donc, groupe de parole. Premier samedi de chaque mois, où on se réunit donc dans à notre siège social, et chacune s'exprime dans son questionnement. Des fois c'est des bonnes choses, des fois c'est des moins bonnes choses, et ainsi de suite. Ces groupes de parole sont ouverts complètement, pas que aux personnes trans. On a une psychologue, on a des médecins, on a une sage-femme, on a des secrétaires, tout simplement, qui sont là aussi pour écouter, pour nous écouter et apporter leur témoignage, des fois en tant que maman, des fois en tant que femme, tout simplement,
ou en tant qu'homme. Mmh. Et voilà, c'est des échanges.
Et ça a lieu où ? Parce que tu disais le siège social. Bon, j'en avais compris que c'était une multinationale avec un grand immeuble dans Lyon, mais on le voit pas.
La multinationale se situe aux 5 petites rues des Feuillants, donc dans un établissement qui s'appelle Le Feuillant, en fait, au Feuillant. Et on se réunit donc à l'étage chez Élodie, qui nous prête ses locaux à ce moment-là. Et voilà. Donc, alors, pourquoi un bar comme ça et non le local associatif le nouveau centre LGBTI de Lyon, auquel nous faisons partie d'ailleurs, tout simplement parce que j'ai voulu que ce groupe de parole puisse, un, se mélanger, donc ça c'était le cas, puisqu'on a une clientèle très très diverse dans ces groupes de parole, mais qu'elle se mélange aussi après ce groupe de parole. C'est-à-dire qu'en fait, on descend, on est juste à l'étage, on est au premier étage, et on descend, et on se mélange complètement à une foule, la clientèle de l'établissement, qui est complètement diverse, et c'est ça qui est une bonne chose. C'est aussi notre façon de sortir les gens du placard. Le coming out, ce fameux coming out, qui terrorise beaucoup, beaucoup de jeunes et de moins jeunes.
Mais qui est du coup facilité par l'effet de groupe.
Qui du coup est effectivement facilité par l'effet de groupe. Les gens se sentent un petit peu accompagnés, ils se sentent pas seuls. Et puis un peu dans l'euphorie du groupe, allez hop, on y va. Et on redescend en jupe en oubliant de se changer à l'étage. Voilà. C'est très important. Et en fait, quand on n'est pas transidentitaire, on a énormément de mal à comprendre ce mécanisme. Mais... vous avez des gens en ce qui concerne la M2F, c'est-à-dire garçon qui veut devenir fille, ils s'habillent en fille, ne serait-ce que une soirée. Pendant cette soirée, ils vont sortir, pub, restaurant, enfin tout ça. Et ils ont fait le plein d'oxygène pour un mois. Ils se sont redynamisés pour un mois. Et ça, c'est... Ben déjà, ça n'a pas de prix. Parce que, en gros, si on leur supprime ça, on va littéralement les mettre en danger. Voilà.
Et si on a envie de participer au groupe de parole, où c'est qu'on peut trouver les informations ?
Alors, les informations, on a plusieurs groupes sur Facebook. on a le Jardin d'été, tout simplement. Le Jardin d'été Rhône-Alpes Auvergne, qui est sur Facebook. Bon, j'ai aussi ma page, voilà, à Florence Varin, tout simplement. Le Jardin d'été, on n'est pas caché du tout. Voilà.
Et donc, il y a d'autres commissions ? Parce que tu as
oui,
donc.
Oui, oula.
Oui, non, mais parce que c'est les activités de l'association, donc on.
Ah oui, non. Nous avons. Je pense que. En fait, alors, faut que j'explique un petit peu pourquoi je suis présidente, parce que je suis une personne qui est handicapée d'une jambe, et donc j'ai voué mon temps, en fait, à cette association. Donc, je suis permanente bénévole dans cette association. Je pense qu'on doit avoir à peu près plus de commissions que de bénévoles, quoi. Mais... non, je plaisante.
Là, c'est combien d'adhérents ?
Non, c'est à peu près 60-70 adhérents à l'heure actuelle. Et on n'a quand même pas 70 commissions.
Oui, non, voilà.
Non. Non, on a des commissions. En fait, on a une commission donc hébergement, on a la commission groupe de parole. On a une commission qui s'occupe d'aller voir les personnes qui ont été hospitalisées et opérées à l'hôpital. À Lyon Sud, entre autres, ce sont des personnes qui très souvent sont désociabilisées ou qui ne sont très très loin de leur famille, qui ne peuvent pas avoir la famille et amis auprès d'eux à un moment qui est très 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 difficile, parce que quand on fait une vagino, c'est une opération ou une phallo, ce sont des opérations qui durent entre 6 et 10 heures et le moral en prend un coup. Donc là, on va les voir. On leur fait un petit coucou, on parle de tout, de rien, et histoire de remonter le moral. Voilà. On a une commission qui va s'occuper du TEDOR. Les TEDOR, c'est la journée de commémoration des personnes trans tuées. Parce que ça, c'est important aussi, si vous voulez, à travers le monde, on a des personnes transidentitaires qui sont tuées. Tous les jours, plus que tous les jours, il y en a à peu près deux transidentitaires qui sont tués dans le monde. Voilà.
Donc nous faisons cette commémoration une fois par an. L'année dernière, nous avons fait une opération qui a très très bien marché et je remercie la mairie de Lyon qui nous a permis de faire cette opération d'ailleurs. C'est, nous avons mis au-dessus ou en dessous des plaques de rue, vous avez la rue Charles Dupont par exemple, et bien en dessous ou au-dessus, on a mis en plaques similaires un message tout simplement comme quoi, par exemple, Leïla, 18 ans, tuée par son propre père en 2015. Voilà, ce message n'est pas innocent puisqu'en fait ça faisait partie des plaques. Quand on a collé ces plaques, il y a énormément de gens qui sont arrêtés. Des gens qui ne connaissaient pas du tout la transidentité, qui ne connaissent pas du tout le problème, et qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? À mettre des trucs complètement tordus, de gens tués, mutilés, et brûlés, enfin coupés en morceaux. Et on a expliqué à tous ces gens qu'en fait la transidentité existait. Et c'était quelque chose qui tuait encore énormément. Ça, c'est une commission. Cette année, j'aimerais beaucoup... Enfin, c'est pas si j'aimerais, c'est que cette année, nous allons la refaire. Et j'aimerais beaucoup, par contre, qu'on puisse l'élargir à une exposition style dans une galerie de métro. Voilà. Après, on a d'autres opérations en cours. On a une opération que j'affectionne particulièrement, parce que c'est mignon, parce que ma petite fille, il n'y a pas longtemps, m'a dit « Écoute, papa, t'es toute seule. » Je dis bien « Papa, t'es toute seule. Donc, je te prête mon doudou. » Voilà. Et on a une personne dans l'association qui nous a fait don et cadeau de 28 kilos de peluches. Donc là, on les a triés, on les a sélectionnés, choyés. Et on va en faire cadeau à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Le message est très simple. Ce sont des enfants qui ont malheureusement une maladie. Des fois, c'est pas trop grave. Des fois, c'est un petit peu plus grave. Des fois, ils sont hospitalisés de 3 jours. Et des fois, c'est beaucoup plus. Expliquer tout simplement, ou essayer de communiquer un message comme quoi ils sont différents, nous sommes différentes, et dans cette différence, nous devons trouver notre force de vie. Voilà, ça c'est une commission à laquelle je tiens beaucoup. On a une commission juridique qui creuse sur les problèmes juridiques, tout simplement. Qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit transidentitaire et que son banquier persiste à appeler monsieur, eh bien cette personne peut porter plainte aux raisons de l'article 40 sur la vie privée, atteinte à la vie privée. On a aussi d'autres commissions. On intervient au milieu scolaire, on intervient au milieu professionnel pour aider les gens, et on est en train de mettre en place une commission qui est là extrêmement compliquée. Je ne voulais pas en parler, puis en fait, je vais en parler quand même un petit peu.
Vas-y.
C'est les personnes en prison. Au début, je me suis dit dans ma tête, bon, on va essayer de s'occuper de toutes les personnes transidentitaires. Donc, je sais toutes les situations. École, lycée, machin, ok, il y en a un peu partout. Puis, dans ma tête, je me suis dit prison. Puis, je lui ai dit, mais non, il n'y en a pas en prison. Non, si, il y en a. Pas beaucoup, c'est pas légion, mais il y en a quand même quelques-unes. Et en France, comme dans beaucoup de pays, en fait, ce sont des gens qui ne sont absolument pas considérés dans leurs problématiques, à qui on ment souvent, à qui on leur donne l'espoir d'avoir un traitement hormonal, et en fait, il n'y a rien du tout. Et ce qui m'a fait réagir énormément, c'est une personne qui s'appelle Sylvie, qui s'est tué il y a 2 mois et demi en prison. Voilà. Et là, j'ai dit non, plus jamais ça. Voilà. Donc, je travaille personnellement sur ce dossier. Et voilà. Donc, ça, c'est important.
Donc, on voit une association quand même très active et très, comme tu disais, très sur le terrain, quoi.
Notre mot d'ordre, c'est le terrain.
En France, si on veut regarder faire un état des lieux des associations, en France, il y a une dizaine d'associations purement trans. Hein. Je ne parle pas des associations généralistes. Ce week-end, j'étais à La Rochelle. Nous avons eu le plaisir de rencontrer une association généraliste qui s'appelle Adeos, qui est très très bien, qui fonctionne merveilleusement. Ils s'occupent des lesbiennes, ils s'occupent des homosexuels, ils s'occupent des bi, ils s'occupent des intersexes et ils s'occupent des trans. Mais comme, en fait, comme à l'habitude, en fait, les personnes qui s'occupent de la branche trans ne sont pas forcément trans. Et là, quelque part, ça me gêne énormément. Je dis, aujourd'hui, la problématique trans doit être prise en charge par les transidentitaires eux-mêmes. Et c'est à nous de battre le terrain. C'est à nous de nous défendre, c'est à nous de nous battre et de défendre le beefsteak. Voilà. Au même titre que cette année, il y a eu un DU qui a été mis en place sur la transidentité, et je rouspète sans arrêt, je hurle, parce que ce DU, donc diplôme universitaire, diplôme universitaire, est dirigé par des chercheurs, des médecins, qui sont très très bien, des psychiatres, des psychologues, qui sont très très bien, mais il n'y a aucune transidentitaire qui intervient là-dedans. Et là, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça c'est un peu l'aparté.
Non, mais c'est important de le dire.
Voilà.
Eh bien, on va faire un petit pont musical, comme on dit en radio. Et on revient juste après avec Florence du Jardin d'été.
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine. Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu restes debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.
C'est toujours La Causerie et on vient d'écouter Grand Corps Malade avec J'étale les mots. Et oui, dans la première partie, on a parlé effectivement de votre projet cette année, de la communication autour de la ligne anti-suicide. Donc si on pouvait juste rappeler le numéro.
Alors le numéro, c'est le 0800 600 608.
Et on rappelle que elle est ouverte 24 heures sur 24.
24 sur 24. Que vous pouvez appeler, c'est gratuit. Personne ne paye. Si, c'est nous qui payons.
Voilà. Et justement, j'avais une question par rapport à l'association.
Oui.
Vous n'êtes toujours pas reconnu d'utilité publique ?
Alors, non. Nous sommes. Aujourd'hui, si on veut faire l'état des lieux de l'association, nous sommes donc une association très jeune, puisque simplement installée depuis 2014. Néanmoins, en un an et demi, nous avons réussi à avoir un retour du terrain qui fait que nous travaillons avec des hôpitaux de Lyon, que nous travaillons avec des services sociaux de Lyon, que nous travaillons avec des gens qui nous appellent tout simplement en disant « j'ai une personne transidentitaire, elle est peut-être en difficulté, on aimerait que vous la rencontriez ». Voilà. Et pour moi, c'est déjà la plus belle reconnaissance. C'est le terrain qui fait reconnaissance et force de loi, quoi, on va dire, hein, sur nous. C'est effectivement, alors, être une association reconnue d'utilité publique, bon, c'est mon grand rêve, c'est mon fantasme, bien sûr. Bon, à part un pompier, mais bon, ça, c'est un autre fantasme. C'est un autre fantasme. Mais j'aimerais, oui, effectivement, beaucoup que l'association soit reconnue d'utilité publique. Parce qu'en fait, elle est véritablement d'utilité publique. Notre mission, elle est uniquement sur le terrain. Nous ne sommes pas là à revendiquer la PMA, la GPA, le machin, le truc, le CEC, même si c'est un dossier qui traîne sur mon bureau et que je travaille dessus avec certaines personnes à Paris. Mais le but de l'association n'est surtout pas revendicatif. On n'est pas là à crier dans tous les sens, à hurler dans tous les sens. On est là à travailler sur le terrain, tous les jours. Tous les jours, on a des gens qui ont besoin de nous. Il y a deux soirs, j'ai eu une personne sur la ligne d'urgence, justement, qui m'a appelé. Elle était en dépression. Elle était, je ne sais pas, j'imagine, je peux, parce qu'en fait, il ne faut pas laisser son imaginaire courir là-dedans. Mais elle était en situation vraiment très difficile et critique. On a passé une heure et demie à discuter. C'est une personne qui est rejetée par sa famille, enfin tout un tas de choses. Voilà. Donc je pense que oui, le travail que nous faisons est d'utilité publique. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il soit reconnu. Le seul souci, c'est que pour être reconnu d'utilité publique, il faut avoir 200 adhérents, un minimum de 200 adhérents. Et nous en sommes loin pour l'instant. Voilà. Mais. C'est pas parce que j'ai pas mes 200 adhérents que je vais m'arrêter de fonctionner.
Oui,
donc
fait.
On continue à rouler, on continue à.
Mais l'adhésion est ouverte à tous.
Et l'adhésion est bien évidemment ouverte à tout le monde, oui, bien sûr, puisqu'en fait. Bon, j'ai pas mal de transidentitaires, bien évidemment, mais j'ai aussi des tas de personnes qui sont pas du tout transidentitaires, qui sont soit des donateurs, entre autres la personne qui nous finance cette année la ligne, justement la ligne d'écoute, le 0800 600 608, c'est un donateur qui n'est pas du tout transidentitaire, qui a pris en compte le phénomène de suicide de cette population, et il s'est dit, il faut faire quelque chose, et moi je finance cette partie. Voilà.
Donc on peut adhérer pour aider l'association.
Absolument,
sans problème.
Et
alors, comment on fait pour adhérer ?
Alors ça, c'est compliqué. Non, c'est très simple. Il suffit de venir sur nos groupes, sur le groupe de Jardin d'été sur Facebook, ou à notre réunion au Feuillant le premier samedi de chaque mois, ou au nouveau centre LGBTI rue des Capucins le dernier samedi de chaque mois, ou de crier sur Facebook Florence Varin et Jaco.
Ben voilà, vous savez tout.
Voilà.
Ben, on a fait le tour.
Je pense qu'on a fait le tour.
Non, je crois qu'on l'a pas dit. C'est la ligne d'urgence, c'est le 0800 600 608.
T'as raison, on l'avait pas encore.
Non,
je crois pas.
On va même le redire avant de se quitter.
Bien sûr.
Merci à toi, Florence, d'être venue.
D'être venue.
C'est moi qui vous remercie d'avoir accueilli.
Et n'hésite pas, la porte est ouverte si tu as d'autres. Infos à passer.
Faut jamais me dire ça parce que je serai tout le temps ici.
Ok.
Alors,
non mais c'est vrai. Si dans l'avenir il y a des infos à passer, ou des événements ou des choses que vous voulez présenter ou voilà.
Alors je pense qu'on fera appel à vous pour l'été d'or par exemple.
Bah, sans problème.
Pour bien préciser l'opération. Et puis je pense que quand j'en saurai plus sur l'opération des peluches par exemple, c'est-à-dire quand on va faire le don véritablement, et ben je vous en ferai part.
Bah oui.
Il y a pas de souci.
Et nous on relaie, il y a pas de souci.
Voilà.
Alors, comme on est un peu à la ramasse et en retard, on va pas faire d'agenda et on va dire aux gens allez sur rebellion.info, il y a tout.
Ou autre.
Ou autre d'ailleurs, mais voilà. Parce que voilà, on n'a pas le temps. Et puis, ben, dire que la semaine prochaine, on aura totalement un autre univers parce qu'on reçoit un reggae man qui vient chanter dans l'émission. Voilà. Il s'appelle Filippo Enco. Ce sera de la musique, ce sera bien. Mais puis si c'est pas bien, vous vous coupez. Vous resterez pas. Non, je plaisante, ça va être très bien. Et puis voilà, mais qu'est-ce que vous, on dit au revoir.
On dit au revoir.
Non, on a oublié un truc. Oui, ah, on a oublié un truc.
On a oublié.
Le 0800 608. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît.
Très bien.
Parlons-en avant qu'il soit trop tard.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je vais juste dire qu'on va le mettre sur le blog de l'émission.
Merci beaucoup.
Et qu'on le fera circuler le oui. numéro sans problème. Voilà. Et je suis très très content, à titre personnel, car nous nous quittons sur Radio Canu avec un titre d'une artiste que j'apprécie énormément et je ne suis pas ironique, Mylène Farmer avec Son Contrefaçon. Voilà. Et ben merci Florence encore.
Merci beaucoup.
Bonne semaine à toutes et à tous.
Bonne semaine.
Je suis un garçon.